le propre du young adult, c'est vraiment l'évolution du personnage principal, de ce côté, en fait, comme c'est fait pour parler aux adolescents et qu'on a vraiment, donc, à l'adolescence, ce besoin de grandir et de trouver, en fait, ses marques, sa liberté, etc. Et sa maturité, c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment ce besoin et je pense que c'est demandé.
Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu.
Dans cet épisode, je reçois Nell Pfeiffer, l'auteur de la duologie fantasy jeune adulte L'Engrange-Temps, qui est publiée chez Hachette Roman et connaît un beau succès, se déroule dans un univers riche basé sur l'horlogerie. Et j'avais envie de parler avec Nell et bien de comment est né ce roman, d'où lui est venue cette idée saugrenue, de comment elle a pensé un peu son roman, parce que le jeune adulte, eh bien, ça a des requis, comme le côté identification forte avec le personnage principal, et comment écrire un bon roman de fantasy jeune adulte, comment elle a construit son univers, comment elle a pensé son histoire et la romance, et tu verras que c'était pas forcément tout à fait prévu au départ. Je te laisse avec notre épisode et bien sûr tu retrouveras les liens pour rencontrer Nell et lire son livre dans les notes du podcast. Bonne écoute.
Et on est avec Nell Pfeiffer. Hello Nell, bienvenue au Café des auteurs. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ?
Je m'appelle Nell Pfeiffer, je suis donc autrice de romans fantasy chez Hachette Roman. J'ai sorti mon premier roman l'année dernière, non il y a 6 mois, mais c'est en 2023, qui s'appelle L'Engrange-Temps. Je suis aussi dans la vie tous les jours graphiste et photographe et j'habite à Montréal au Québec.
Et du coup, tu as publié L'Engrange-Temps l'année dernière. Est-ce que ça correspond à tes débuts d'auteur ou est-ce qu'il date de bien avant ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes débuts dans l'écriture ?
Alors, moi, j'ai commencé réellement à écrire des écrits originaux, donc pas des fanfictions, quand j'avais 19 ans. Donc, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Donc, j'ai commencé en fait avec toujours cette envie d'écrire de la fantasy. En fait, il y a presque jamais été question d'écrire du contemporain. Moi, j'ai commencé avec l'idée d'écrire une trilogie fantasy avec un énorme world building. J'avais jamais fait ça. Je me suis vraiment lancée dans le grand bain. J'avais fait à l'époque 3 mois, je pense, de recherche avant vraiment de me lancer complètement dans l'écriture. Et donc, j'ai commencé donc cette première trilogie qui s'appelait La part de l'éclair, que j'ai écrit pendant presque, je dirais, peut-être 5-6 ans. Mais parmi ce temps-là, il y a eu un blocage qui a duré 4 ans quand même. Donc en fait, techniquement, j'ai écrit pendant à peu près 3 ans en fait ce roman-là. Donc ça a gravité dans ma tête. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2020, j'ai décidé d'envoyer en fait ce roman-là quand je l'avais fini en maison d'édition. J'ai eu des refus. J'ai eu une vingtaine de refus ou pas de réponse de maison d'édition. Et en fait, c'est passé, je pense, un an et demi, jusqu'à ce que je me dise, bon, bah, je vais écrire autre chose. J'avais commencé le tome 2, mais finalement, comme j'avais pas de réponse du tome 1, je me suis dit, ben, ça sert à rien pour l'instant de continuer dans ma lancée. Et au final, un jour, je suis tombée sur une vidéo à propos des métiers de l'Élysée, et ça commençait par l'horlogère qui arrivait à l'Élysée pour monter des horloges. Et en fait, là, ça m'a donné une idée, en fait, carrément, de me dire, bah, je vais écrire un roman avec des horloges qui parlent de voyage dans le temps, des horloges avec des pouvoirs, etc. Et en fait, ça, on était en 2021. Et j'ai eu cette idée-là, je pense, en septembre. Et en décembre, j'ai vraiment commencé à écrire le roman que j'ai écrit à peu près en un peu moins d'un mois. J'ai fait à peu près un 56 000 mots en 20 jours, je pense, quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment un peu dans la ferveur d'écriture. En plus, à l'époque où j'ai commencé, en décembre, j'avais le Covid. Donc, j'étais vraiment isolement. Je vais faire ça pendant une semaine. Je me levais à 10 heures. J'écrivais jusqu'à 17. Donc, j'avais tout dans ma tête. Et j'avais vraiment envie, en fait, de participer à l'époque au concours Les Murmures Littéraires. Donc, j'ai fait ça. J'ai envoyé. Je suis passée pas mal à toutes les étapes jusqu'à juillet où j'ai pas gagné. Mais je suis vraiment allée jusqu'à la fin pour pouvoir avoir les 3 avis des jurés sur le roman. Et entre-temps, en juin, j'avais envoyé à Hachette Roman. Et en fait, ils ont beaucoup aimé. Et pendant l'été, j'avais aussi refait une réécriture par rapport à une bêta lecture que j'avais eue. Et en fait, finalement, c'est ça, mon aventure après éditoriale s'en est suivie avec Hachette Roman, mais c'est ça, mais vraiment mes débuts d'auteur, c'était une trilogie sur une élue qui découvre des pouvoirs dans un nouveau monde, etc. Donc j'étais vraiment sur le basic de la fantasy à ce niveau-là.
Et c'était dur de l'abandonner, cette trilogie?
Ouais, en vrai, j'ai décidé de la laisser de côté là à peu près cette année en fait, parce que j'ai fait une grosse réécriture l'année dernière avec, parce qu'en fait quand j'ai voulu participer au Murmure littéraire, j'ai envoyé donc L'Engrange-Temps et La Part de l'Éclair. Il y a que L'Engrange-Temps qui a été retenu et La Part de l'Éclair, on m'avait dit ben c'est pas hyper original comme écriture, il y a beaucoup de faiblesses, etc. Et en fait c'est ça, c'était quand même un roman que je traînais depuis bon quand même 6 ans. Donc j'avais eu le temps d'évoluer, etc. Avec mon écriture. Donc L'Engrange-Temps ressemblait un peu plus à ce que j'étais maintenant plutôt que La Part de l'Éclair. Et ça m'a fait un coup quand même quand on m'a dit ça. Et je me suis dit, et je pense que dans le mail était écrit un truc du genre, bah c'est pas original en fait. On en a vu plein de fois de ce pitch-là. Du coup, je me suis dit, comment c'est possible de garder à peu près le même fondement, mais d'une manière un peu plus originale, justement. Donc là, je faisais en sorte que l'héroïne, en fait, découvre pas ce monde-là, mais qu'elle sache, en fait, qu'il existait déjà, qu'elle avait, en fait, affilié un parent, en fait, qui venait de ce monde. Et en fait, j'ai réécrit à peu près tout. Et ce qui s'est passé, c'est que, je suis passée par des BL aussi, ils ont bien aimé, mais je sentais en fait qu'il n'y avait pas autant d'engouement qu'il y a eu pour L'Engrange-Temps. Et en fait, là récemment, même si je pourrais avoir potentiellement une plug avec Hachette Roman, où il m'avait dit qu'il serait quand même intéressé à le publier, en fait, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, ça ne me correspond plus. J'aime beaucoup l'histoire et peut-être qu'à un moment donné, en fait, je réécrirai sur ce truc-là, mais c'est vrai que on est peut-être trop sur du basic et j'ai envie d'explorer peut-être des choses qui vont être un peu plus originales. J'aime pas trop ce mot parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu difficile de vraiment dire, oh, l'histoire est vraiment originale, mais vraiment des choses qui me correspondent un peu plus aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je la laisse de côté. J'aime les personnages, j'aime le monde, mais c'est vrai que je suis arrivée à un moment donné où j'ai envie de parler des choses qui sont peut-être un peu plus matures. Donc c'est ça, mais ça m'a tenue en haleine quand même un bon 8-9 ans, quoi. Donc c'est mon petit bébé de l'époque.
Et justement, à propos de ce qui te correspond et peut-être de tes influences, on a parlé de fantasy, mais L'Engrange-Temps, il a aussi un peu cette vibe jeune adulte, j'ai envie de dire, un peu
Ouais.
léger, plus légère peut-être que de la fantasy à la Tolkien par exemple. C'est
Exact.
quoi tes influences en fantasy et peut-être en jeune adulte?
Je suis une enfant des années 90-2000. Bien sûr que j'ai grandi avec Harry Potter. Et mine de rien, voilà, l'autrice qui est ce qu'il en est aujourd'hui, ça reste que Harry Potter a une grande influence en fait sur mon écriture, sur la façon dont je me suis construite. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire La Part de l'Éclair, je l'ai fait parce que j'étais allée voir les making-of Harry Potter et que je me suis dit, moi aussi, je veux créer un monde aussi vaste. Et la fantasy, ça a toujours été quelque chose qui m'a animée. J'ai vu le Seigneur des Anneaux très jeune. Donc, en fait, tout ce qui était série, fantasy, film de fantasy, en fait, c'est toujours ça qui m'animait parce que je trouve que la réalité est absolument pas intéressante. Donc, je me suis toujours réfugiée, surtout dans les films, j'ai lu très très tard. Donc, c'est vrai que c'est jamais vraiment l'écriture, enfin, la lecture du moins qui m'a inspirée à l'époque. Et en fait, c'est vrai que le young adulte, plus que le jeunesse ou l'adulte, m'a vraiment bercé et m'a poussé en fait à écrire ce genre-là parce que c'était ce que je lisais finalement à l'époque où j'ai vraiment commencé à lire. Je pourrais pas dire exactement c'est quel roman que j'ai vraiment apprécié quand j'étais jeune. C'est vrai que je lisais un petit peu tout, je lisais même du contemporain, etc. Mais c'est vrai que la saga, je te dirais, qui a vraiment changé ma manière d'écrire à l'époque, c'est La Passe-Miroir, qui a vraiment. On ressent 100% La Passe-Miroir dans L'Engrange-Temps, et on me l'a dit, et je suis quand même contente, parce que ça reste quand même une grosse, grosse influence. Christelle Dabo, c'est vraiment mon autrice préférée. Et aussi, ce qui m'a remis à la lecture, ça va être Grisha de Leigh Bardugo et Sorcerer of Thorns de Margaret Rogerson. Donc c'est vraiment ces trois autrices-là avec ces trois romans. Et en fait, c'est tout du young adult. Et ce que je trouve intéressant dans le young adult, c'est que l'écriture est assez simple, mais ça reste qu'on peut faire des super belles choses. Le monde peut être aussi très poussé, mais en étant assez compréhensible. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça soit abordable pour beaucoup de gens, et qu'en fait, ça permet qu'il y ait d'autant plus de lecteurs qui puissent nous lire. Et alors que je trouve que la fantasy adulte, moi, j'en lis pas beaucoup parce que justement, j'ai tendance à m'ennuyer. Parce que je pense que j'aime bien quand ça va vite, que c'est compliqué, mais que ça va vite quand même. Je saurais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je lis un peu moins. Et donc, en fait, je me suis toujours concentrée en lecture young adulte. Encore aujourd'hui, malgré le fait que je vais bientôt avoir 30 ans. et donc, en fait, ça fait que j'écris ce que je lis. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment possibilité, justement aujourd'hui, qu'on ait du young adult qui est un peu plus jeunesse, comme l'est L'Engrange-Temps, et du young adult qui ressemble presque à du new adult, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais qui va en fait parler de problématiques de jeunes adultes vraiment au lieu d'adolescents, parce qu'on s'entend que quand on parle de young adulte aujourd'hui, on pense surtout à une tranche d'âge entre 16 et 18, ce qui est le cas dans L'Engrange-Temps. Mais là, par exemple, je suis en train d'écrire quelque chose d'autre où ma protagoniste a 23 ans, sans être forcément de l'adulte, on reste dans du young adulte, mais par les problématiques qui sont un peu plus, je dirais, c'est ça, jeune adulte, quoi. C'est bizarre, ouais. Mais
c'est un peu
compliqué
aussi,
comme plus sombre, exactement. C'est
je
ça.
Pense, Aurélie Wallenstein, typiquement, c'est du jeune adulte, parfois avec des ados, mais par contre, on est sur des romans plus sombres aussi, avec des problématiques vraiment
c'est ça.
Parfois un peu plus hardcore.
Ouais, il y a des choses qu'on peut même pas, enfin qu'on peut pas vraiment parler en vraiment young adulte, dans le sens où faire attention à certains propos, au contenu explicite ou des choses comme ça, où des fois en fait. La plume va ressembler à du young adult, mais surtout au niveau de l'univers. Mais en fait, finalement, les problématiques et les sujets sont adultes. Donc, je trouve qu'en fait, il faudra qu'il y ait un gap en fait entre les deux, quelque chose qui représente cette c'est ni du jeunesse, ni du young adult, ni forcément d'adulte. C'est vraiment genre c'est ça du new adult, j'aurais envie d'appeler ça.
Toi, c'était finalement un moyen d'avoir une vision un peu d'un roman de fantasy sans pour autant qu'il y ait 4000 pages de, de saga, un world building ouais. Qui dure 6 mois. Et finalement, c'est plus accessible à la lecture et peut-être à l'écriture. Est-ce que c'est peut-être plus ouais. Simple de créer le monde, etc. Tu le vois comme ça?
Je dirais pas plus simple parce que ça reste que généralement, enfin du moins dans mon cas, il y a quand même pas mal de recherches à ce niveau-là et surtout au niveau correction éditoriale, ça reste que on essaye vraiment de pousser généralement. Mais je trouve que c'est une manière en fait le young adult de donner des concepts compliqués mais de façon assez simplifiée, notamment le voyage dans le temps en fait avec L'Engrange-Temps. Pour être très honnête, je suis une personne qui fait peu de recherches dans la vie, ou du moins fait des recherches vraiment en dernière nécessité, quand vraiment je sens qu'il y a des points que je maîtrise pas, notamment l'horlogerie ou des trucs comme ça, ou la question peut-être plus géopolitique que j'ai dû avoir à faire dans L'Engrange-Temps, qui était vraiment travaillée en correction éditoriale. Et c'est vrai que généralement, quand j'écris, je vais rester sur des bases et qu'après je vais approfondir petit à petit. Et c'est vrai, je pense que c'est le côté peut-être plus trop complexe d'un sujet qui moi va pas me toucher en fait. Tout ce qui est trop politique, j'aime pas en lire, du coup j'en écris pas. C'est vrai que généralement en adulte, c'est surtout, je trouve fantasy adulte, c'est surtout ces côtés stratégie, ce côté géopolitique dont on va parler, qui moi m'intéresse zéro. Donc c'est pour ça que je trouve que j'essaye en fait de simplifier certains sujets pour que en fait ça parle au type de personnes comme moi qui aiment en fait pouvoir rêver et voyager dans un monde sans forcément en fait se faire des nœuds au cerveau sur certaines questions, parce que finalement j'écris, oui j'aime faire des world building complexes, mais tout en c'est ça, en essayant de les simplifier au maximum pour pouvoir correctement rêver sans forcément se faire des nœuds au cerveau sur la généalogie, sur la politique, etc.
Ça ferait une bonne définition du coup du jeune adulte. C'est des problématiques un peu plus simples, mais qui sans pour autant négliger l'univers finalement, parce que le tien
c'est
est quand
ça,
même
très lié. Oui, c'est ça. En fait, j'adore pouvoir créer, c'est ça, un monde de A à Z où on part de quelque chose qui va être très un concept de base, Et en fait, on va gratter petit à petit par couche, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là, et en fait, essayer de réfléchir à comment notre monde réel est, et du coup, comment on va pouvoir le transporter dans ce monde physique, enfin, ce monde fictif, pardon. D'ailleurs, c'est ce qu'on a beaucoup relevé dans L'Engrange Temps, c'est le monde qui a été créé, puis je suis quand même contente parce que j'ai mis beaucoup d'amour dessus et beaucoup de temps. Donc, je suis quand même contente que ça soit ça qui revienne assez souvent aussi. C'est ce besoin, je pense, de s'échapper de la réalité aussi qui fait en sorte que j'aime bien pousser les worldbuilding.
Et du coup, tu nous as dit rapidement que L'Engrange Temps est né d'une vidéo de l'Élysée, de l'horlogère de l'Élysée. Je trouve ça
oui,
dingue,
exact.
Justement.
Ouais. J'aime bien cette anecdote. Je la répète tout le temps, mais ouais.
Et alors, une fois cette vidéo vue, c'était... Ouais. C'était quoi? Tu avais un univers en tête, du coup, cet univers autour de l'horlogerie. Comment ça s'est passé?
En gros, c'est à l'époque où j'ai découvert TikTok, où en fait je passais des heures dessus. Et en fait, je tombe sur un reportage, parce qu'ils aiment bien faire ça sur TikTok, republier des trucs, des reportages et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça super intéressant, ce côté de. Que la personne expliquait qu'en fait, si le président était à l'heure, c'était grâce à elle, etc. Et je trouvais que le fait que l'horlogerie se rapporte en fait à quelque chose de politique de ce côté-là, mais qu'en fait, il y a un métier en fait qui soit là et qui serve en fait au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend que voilà, on a des téléphones, on a l'heure tout le temps. En fait, on se pose pas la question. Et je trouve que l'horloge de base, et c'est magnifique. Il y a des super belles horloges. En fait, il y a un côté un peu mystique autour des rouages, etc. Et en fait, j'ai eu une phrase qui m'est venue en tête quand j'ai vu ce reportage. Et je me suis dit, imaginons, c'est une jeune horlogère qui travaille dans un palais et qui remonte des horloges qui parlent. Et c'était vraiment ça le pitch de base. Et en fait, ça m'a vraiment animée parce que je trouvais ça super intéressant, le côté royal, le côté mélangé avec l'horlogerie, avoir cette jeune femme en fait, qui va se retrouver dans des ennuis avec un retour dans le temps, etc. Donc ça, c'est venu vraiment par couche d'une petite phrase de base et puis après, ensuite, j'ai tout fait autour.
C'est marrant cette petite phrase de base dont tu parles parce que c'est souvent ça un petit peu notre idée. Et parfois, certains auteurs dans mon entourage, par exemple, se retrouvent à se perdre un peu, en fait, justement, avec ce fameux world building et puis le scénario et tout ça. Et on peut se perdre un peu en chemin. Et je trouve que revenir à cette petite phrase de base qu'on avait, parce que là, tu viens de décrire super bien L'Engrange Temps, je trouve. Alors,
oui.
Tu n'as pas dévié de ton idée originale, quoi.
Non, c'est vrai, c'est ça. C'est que. Mais j'avais vu quelqu'un qui expliquait comment faire, comment développer une histoire. Et qui expliquait que partait d'une phrase et petit à petit en fait broder autour pour essayer de se créer justement une histoire à part entière avec des sous-intrigues, etc. Et en fait ça c'est décrivant une phrase, décrivant un paragraphe, décrivant ouais. Plusieurs paragraphes, etc. Je trouve ça super intéressant et c'est vrai que généralement ouais, ça vient vraiment d'un tout petit concept de base qu'on essaye en fait d'étoffer petit à petit.
Ouais. C'est la méthode Flocon dont tu parles.
Ah, okay.
J'ai pris le lien dans le podcast. Effectivement. Et après, alors je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde, par contre, justement,
ouais.
Parce que parfois il faut nourrir ces fameux développements. Mais par contre, c'est vrai que souvent c'est une bonne piste, quoi, c'est de revenir à notre idée de base. Et alors, une fois que tu avais cette idée de base en tête, justement, venait la phase de l'écriture. Bon, tu nous as dit que ça s'était écrit assez vite, finalement.
Ouais.
Avec un coup de pouce de notre ami le Covid. Et après, quand comment s'est passée un peu la réécriture, etc. Est-ce que ça a été long à corriger? Parce qu'il y a quand même pas mal de complexité dans le roman.
De base, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, je me suis dit, je vais écrire un roman très simple pour qu'il soit publié. That's it. En gros, je voulais vraiment faire publier la part de l'éclair à l'époque. Ce qui a fait que je me disais, je vais essayer de rentrer dans le monde de l'édition avec un one-shot. Qui fait moins peur aux éditeurs, avec une histoire simple, mais qui peut parler en fait à tout le monde, parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose d'assez spécial par rapport à L'Engrange, enfin de L'Engrange Temps par rapport à la part de l'éclair, de cette idée d'horloge qui parle. Et je me suis dit, je pense que c'est ça qui peut me faire rentrer dans le monde de l'édition et proposer par la suite la part de l'éclair. Donc en fait, de base, je voulais pas écrire quelque chose de compliqué, je voulais pas écrire quelque chose de long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait un plan à l'époque, donc j'avais toute l'histoire en tête, j'ai vraiment besoin d'avoir presque l'histoire de A à Z dans ma tête avant de faire le plan. Donc là, j'ai fait un plan et j'ai commencé en fait à écrire du coup pendant ces 20 jours. Et je pense que j'ai fini fin janvier et la date de remise pour les murs muritaires, c'était début février. Et en fait, là, j'ai vraiment carburé pendant 2 semaines pour réécrire. Je l'avais fait lire à personne, etc. Et je sais que par rapport à ça, il y a les jurys qui m'avaient dit dans les murs muritaires, ça sent qu'il y a plein de trucs qui sont pas poussés ou certaines maladresses ou des choses comme ça. Ouais, mais parce qu'en fait, finalement, je l'ai vraiment écrit pour le concours et j'ai fait relire à personne. Donc, j'étais passée sur une première fois donc pour pousser peut-être un peu plus l'univers, peaufiner en fait mes paragraphes et ensuite repasser tout sur Antidote, puis j'ai envoyé quoi. Donc cette première phase a été envoyée très vite et là, quand j'ai reçu en fait en mars les premiers retours des jurés, c'est là à ce moment-là en fait j'ai fait une grosse réécriture et j'ai demandé à une bêta lectrice parce que je m'étais mise sur Instagram aussi en même temps que ça, donc j'ai rencontré une personne qui m'a bêta lu et en fait par rapport à ça donc j'ai rajouté de la romance un petit peu aussi et ça a fait en sorte que je l'ai réécrit une première fois, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, il y en avait 8 dont Hachette Roman et quand j'ai renvoyé finalement c'était en juin, en juillet j'ai reçu donc le final de toutes les retours des murmures littéraires et là j'ai fait une grosse réécriture avec plus de mots, milieu du roman qui changeait aussi, pas le même les personnages changeaient un petit peu de personnalité, etc. Et en fait, Hachette Roman m'est revenu en septembre en disant « Ah ben, on aime bien !» Et puis moi, j'ai dit « Ah, mais moi, j'ai une deuxième version, en fait. Est-ce que je peux vous l'envoyer ?» Ils m'ont dit « Oui, pas de problème !» Et en fait, c'est ce qui est devenu, finalement. Ils ont lu autant la première version que la deuxième. Et après, ils m'ont proposé un contrat.
C'est motivant, en fait, comme ça.
En 6 mois, en fait, c'était presque fait, quoi.
C'est fou, hein, ça dépend vraiment beaucoup aussi des maisons d'édition, aussi de leur force de frappe pour lire aussi les manuscrits qu'ils
reçoivent,
mais c'est quand même impressionnant.
Ouais, Hachette Roman lit super vite, un peu moins en ce moment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et tout, mais à l'époque, en fait, avoir une réponse d'Hachette Roman, ça prenait 3-4 mois. Moi, j'ai eu en fait même une réponse au bout de 2 mois et demi. Donc, en fait, je trouve que c'est les plus rapides à ce niveau-là, et en plus... je sais plus ce que j'allais dire, mais ouais, c'est le plus rapide.
Et L'Engrange-Temps, du coup, c'est une saga qui comporte en tout cas 2 tomes, c'est ça?
Ouais, exact.
Et tu avais préparé, donc tu nous as dit que tu avais préparé, mais tu avais préparé le premier tome avant de l'écrire. Est-ce que tu avais déjà une vision de ce qui allait se passer dans le deuxième?
Il n'y avait pas de deuxième à l'époque.
Il n'y avait pas de deuxième.
Non, dans ma tête, c'était un one-shot. Ça finissait avec une fin ouverte, mais c'était un one-shot. Mais ça restait que je ne réglais pas toutes les problématiques du tome 1. En fait, il y avait encore beaucoup de choses en suspens sur les intrigues secondaires, d'ailleurs. Ça a fait en sorte que Hachette Roman m'a dit « En fait, est-ce que ça t'intéresserait de faire un deuxième tome ?» Parce qu'en fait, à l'époque où j'ai envoyé cette deuxième version, en leur disant, j'ai poussé en fait l'univers, j'ai poussé certains concepts, etc. Et on m'avait dit, mais est-ce que ce que tu pousses dans ta deuxième version, est-ce que tu peux pas le pousser dans un deuxième tome? Et là, en fait, on en avait discuté et puis ils m'ont dit, que ça les intéressait potentiellement deuxième tome. Donc ça m'a donné une idée. Et à partir de là, en fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce que pourrait être ce deuxième tome-là. Et je leur ai proposé, je pense, un chapitrage quelques mois après. Et j'ai écrit, j'ai signé d'ailleurs le deuxième tome avant de l'avoir fini de l'écrire en fait. Mais de base, c'était pas censé du tout avoir 2 tomes, mais finalement en fait, heureusement. Toutes les personnes qui ont lu le deuxième tome m'ont dit, mais heureusement qu'en fait il y a un deuxième parce qu'on pousse beaucoup plus les personnages, on pousse beaucoup plus l'intrigue et on résout aussi certaines choses qu'on avait ouvertes dans le tome 1 qui n'étaient pas finales quoi. Donc c'est ça.
Ce que j'entends, moi, surtout, c'est que aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'est plus simple avec un one-shot d'aller chercher des éditeurs, etc. Mais là, dans ton cas, c'est l'éditeur qui te demande plus ou moins un deuxième tome. Et on voit que ça fait du bien, ouais, que ça te donne plus d'espace, que t'as un univers très riche et qu'on peut l'explorer un peu plus, qu'il y a des tas de personnages dont on va avoir des nouvelles, du coup.
Exact. Bah, ce qui est cool avec Hachette Roman, c'est qu'ils sont pas forcément fermés aux suites. Du moins, je sais qu'ils aiment beaucoup les duologies. Donc, avec cette idée de deuxième tome, ça les freinait pas 100%. Et en fait, comme ils ont eu aussi un coup de cœur sur le projet. Ils disaient, bah, on aimerait beaucoup le pousser aussi plus loin. Donc c'est ça. Et je sais aussi qu'ils sont intéressés par un préquel. Donc l'histoire n'est potentiellement pas finie.
Oh. Et justement, au niveau plutôt préparation, donc tu nous as dit que tu avais préparé quand même l'écriture du premier jet. Tu n'étais pas lancé sans rien.
Non, c'est ça.
Tu avais fait un plan du coup?
Ouais, exact. En fait, je fais un chapitrage, donc chapitre par chapitre, je mets en quelques phrases qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre. Je le suis pas forcément, ce chapitrage-là, mais en fait, ça me donne une ligne directrice vers quoi m'en aller, parce que je suis incapable d'écrire sans savoir où je vais. Je peux pas commencer. Je peux commencer une histoire, mettons les deux, trois premiers chapitres avec l'idée principale que j'ai, mais une fois que j'ai écrit ces trois idées principales, alors, j'ai besoin de savoir c'est quoi qui va se passer comme péripétie, c'est quoi ma fin. Parce qu'en fait, sinon, je vais me retrouver dans ma feuille, je vais dire, mais je marque quoi, en fait? Donc, je suis obligée de savoir de quoi ça va parler, quoi.
Et tu nous as aussi dit que tu avais fait pas mal de recherches.
Oui.
Ouais,
notamment...
Hein? Sur l'horlogerie.
Oui. Exact. J'ai regardé pas mal de vidéos, en fait, YouTube, sur des personnes qui vont réparer des horloges. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui était possible au niveau, enfin, pourquoi on réparait telle ou telle horloge. Je me suis intéressée à des noms spécifiques ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, j'écrivais, et si jamais j'avais besoin, en fait, de plus d'informations pour avoir l'air crédible, là, je cherchais. Donc, je cherchais pas en amont, je cherchais vraiment pendant l'écriture. Et je me suis aussi un petit peu intéressée à potentiellement un contexte plus politique, mais ça, c'était plus en correction éditoriale, où là, on m'a demandé de pousser les relations entre les pays, etc. Donc, c'est là où je me suis un peu plus intéressée. Mais c'est vrai que de base, je vais vraiment au feeling, et je me renseigne surtout pour tout ce qui est les noms de vêtements, les noms d'architecture, quand il s'agit de descriptions.
Et c'est vrai que du coup, ça crée un univers assez unique en son genre et assez riche, et où les horloges ont une âme, finalement.
Exactement.
Je sais pas si ça t'est arrivé, ça t'est venu au début ou vers la fin ?
Comme le fait que l'idée, c'était qu'elles parlent, c'était que forcément, elles avaient une âme. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à penser à quels étaient les tenants et aboutissants de pourquoi elles parlaient. Mais c'est vrai qu'il y avait... L'idée de cette imprégnation dès le début est arrivée assez tôt. Et du coup, ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, bah, comment on fait? Comment font les horlogers pour faire ça, etc. Même au niveau des noms, en fait, je me faisais toutes des listes aussi avec des mots qui se ressemblaient pour pouvoir créer des nouveaux noms, etc. L'idée des horloges magiques aussi n'était pas forcément là dès le début non plus. Mais il y avait toujours cette idée de, on a les oranima qui parlent, on a un engorge-temps. Ok, bah, à partir de là aussi, il va falloir créer aussi d'autres horloges magiques avec des noms, des particularités, etc. Est-ce que on les utilise toujours ou pas? Est-ce qu'elles sont proscrites, etc. Donc, ça.
Et parmi toute cette richesse et cette complexité, bah, y a de la romance. Et tu m'as dit qu'elle n'était pas forcément prévue.
Non, c'est ça, exact. Je n'ai jamais été très prononcée niveau romance, autant avec ce que je lis qu'avec ce que j'écris. Donc c'est vrai que la romance a toujours eu une place dans mes romans, mais vraiment de façon très, très secondaire. C'est-à-dire que les personnages vont se chercher du début à la fin, mais on va vraiment avoir ce contact final. Par exemple, à la fin, c'est vraiment à la fin, en fait, qu'on a quelque chose dans l'engrange-temps qui, en fait, va être nourri tout au long du roman. Mais c'est vrai qu'au début, ma première bêta lectrice sur l'engrange-temps me disait « Ok, elle a l'air d'être attirée, mais t'en parles pas, qu'est-ce qu'elle pense de lui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ressent ?» Et en fait, j'en parlais pas du tout, je restais vraiment dans le concret du roman fantasy, c'est les actions, c'est ça qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle vit, mais jamais par rapport, en fait, au love interest en tant que tel. Et en fait, on découvrait ses sentiments vraiment sur la fin. Et c'est ça, à ce niveau-là, où on m'a dit « va falloir que tu te pousses ». Va falloir, en fait, que tu pousses cette idée de c'est quoi qu'elle ressent, est-ce qu'elle l'aime bien, est-ce qu'elle l'aime pas, etc. Et c'est vrai que de base, ça me dérangeait un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, ou le fait que moi, je vais être plus à l'aise, je vais plus en parler. Mais après, de base, l'engrangement, le 1, c'était vraiment sur l'aventure de Sophie et pas les aventures amoureuses de Sophie. donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a autant de personnes qui vont avoir aimé la romance que certaines personnes qui vont m'avoir dit, ben, je trouve pas qu'elle soit nécessaire ou je trouve qu'elle n'a pas vraiment de sens. Et en fait, je pense que ça dépend après aussi des expériences de chacun de lecture par rapport à ça. Si on est habitué à lire beaucoup de romances, peut-être que, bah, c'est ça, certainement que l'engrangement va pas rassasier les gens. Et ceux qui sont pas forcément, qui ont pas forcément envie de lire une romance ou qui sont pas forcément à fond dessus vont avoir trouvé que c'était normal. Mais c'est ça, pour le coup, en fait, je l'ai beaucoup plus poussé dans le tome 2. Parce que j'avais, pour le coup, vraiment envie de pousser leur relation aux deux personnages. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie de lire de la romance, le tome 2, il y en a beaucoup plus.
Mais en même temps, ça nous rappelle aussi que c'est pas une obligation, et que toi, exact. Finalement, c'est pas mal tombé, on va dire, par rapport à ce que tu avais mis, mais qu'en même temps, on a aussi des romans jeunes adultes, sans romance et sans aucun problème. Même si on exact. Dirait qu'aujourd'hui, la mode est pas dans l'autre sens.
Je pense que je suis tombée des fois sur des vidéos qui disaient si tel roman n'avait pas de romance dedans, est-ce qu'il serait toujours pertinent ou il serait pas toujours pertinent ? Donc en fait, il y a des personnes qui sortaient des livres en disant s'il n'y a pas de romance, bah, ce livre pourrait pas exister. S'il n'y a pas de romance, ah bah si, ce livre, il marcherait. Et c'est vrai que ça apportait en moins quelque chose en me disant ok, est-ce que si l'engrenchant, il n'y avait pas de romance, est-ce que ça marcherait toujours ? Oui. Et en fait, il y a vraiment ce truc de genre, je veux pas que mon roman soit entièrement porté sur la romance, et je veux qu'en fait les gens se souviennent plus du monde plutôt que des relations entre les personnes, malgré le fait que je trouve que aujourd'hui plus j'écris, plus j'ai envie en fait qu'on se souvienne aussi de la romance entre les personnages et de leurs relations. Donc c'est ça, j'ai grandi par rapport à ça, même si ça reste que je mets toujours le world building en avant-plan et les actions plutôt que la relation amoureuse entre les personnages.
Après, une relation amoureuse, c'est aussi un des moyens pour montrer l'évolution de notre personnage ouais. lui-même, et puis notre histoire, éventuellement même notre univers. Donc, ça reste ouais, un ouais, moyen clairement. Tout à fait intéressant, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est le seul si on regarde un peu trop les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup. Ah, est-ce qu'il y a du smut ? Est-ce qu'il n'y a pas de smut ? Est-ce qu'il y a de la romance ? Est-ce qu'il n'y a pas de romance ? Je peux comprendre cette demande. C'est vrai que de plus en plus que je lis, plus en plus, j'en ai tombé sur de la romance, parce que je trouve qu'en fait, ça reste que ça provoque des émotions en soi, dans le sens où un bon slow burn, quand ils arrivent enfin à être ensemble, à s'embrasser, on se dit « Oh, enfin !» Et donc, c'est vrai que je commence à comprendre plus je lis et plus je... Je vais pas forcément choisir un livre pour sa romance, mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand il y en a.
Et justement, à propos d'évolution des personnages, on a parlé de la romance, qui est un moyen d'évoluer, qui montre aussi l'évolution du personnage. Évidemment, il n'y a pas que ça, et surtout dans ce premier tome, le personnage de Sophie, il lui arrive pas mal de choses et elle évolue. En jeune adulte, pour moi, c'est un des aspects les plus importants, c'est qu'on s'identifie au héros, peut-être plus que dans d'autres genres où typiquement, ça, comme tu le disais bien, le world building peut prendre complètement le dessus. Je pense un peu au Seigneur des Anneaux où l'identification au héros vrai. N'est pas du tout le premier sujet. Est-ce que tu es d'accord avec un peu cette définition, ce besoin de s'identifier au héros, et comment tu as créé le personnage de Sophie ?
Le propre du young adult, c'est vraiment l'évolution du personnage principal, de ce côté en fait, comme c'est fait pour parler aux adolescents et qu'on a vraiment donc à l'adolescence ce besoin de grandir et de trouver en fait ses marques, sa liberté, etc. Et sa maturité, c'est vrai qu'en fait il y a vraiment ce besoin, et je pense que c'est demandé de base par aussi les éditeurs, qui est en fait cette évolution de j'ai pas confiance en moi, et en fait à la fin le personnage principal s'est révélé, il a plus confiance en soi, il sait ce qu'il veut, etc. Et c'est vrai que j'aime cette évolution là aussi. Et en fait, je pense que ça a pas mal été tout le temps ça quand j'ai écrit de ce truc de le personnage principal, c'est pas ce qu'il veut, il est perdu, etc. Et justement, on va évoluer vers un personnage qui sait ce qu'il veut, du moins dans la vie, parce qu'en fait, finalement, ça reflète un petit peu notre nous en général. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas mal identifiées à Sophie, qui l'ont trouvée quand même très intéressante, avec son évolution aussi, qui est très intéressante aussi. Donc ça, je suis quand même contente de l'avoir bien réussie, parce que finalement, elle a des doutes au début, elle a des envies aussi. Et j'aime mettre des embûches, dans le sens où elle a pas forcément tout ce qu'elle veut à la fin, et pas forcément aussi... de la manière dont elle l'espérait, et je trouve que c'est un peu ça aussi la vie, c'est que on a plein d'attentes, plein d'espoir, et finalement ça, oui, on arrive à certaines choses, mais il faut faire des concessions, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut et pas de la manière dont on l'aurait pensé aussi, et c'est vrai que ça peut parler à des adolescents, mais je trouve aussi intéressant que ça puisse parler aussi à des personnes dans la vingtaine où aujourd'hui on sait même plus, enfin je trouve que on vieillit de plus en plus tard, si on peut dire ça comme ça, mais dans la vingtaine, à l'époque, donc je dirais mes parents, on est adultes, mais aujourd'hui, je trouve pas du tout, on est encore, et c'est tout à fait ok de pas savoir où est-ce qu'on va, pas savoir ce qu'on veut aussi, d'être perdu, et je trouve intéressant dans les fantaisies de parler de ce genre de problématiques tout en ayant en fait un contexte fantaisie. Potentiellement aussi, j'aime bien pouvoir mettre des petites morales ou des petites remises en question que moi, j'aurais pu avoir quand j'étais jeune ou même maintenant, et de le faire passer justement par le personnage principal pour que ça puisse faire écho aussi chez les gens. Je sais qu'il y a de plus en plus d'auteuristes qui font ça sur la fantaisie, mais aussi pour pouvoir le transposer en fait à ce qu'on vit tous les jours. Et arrêter de faire culpabiliser les gens sur certains trucs. Je pense notamment à la fin où on dit à Sophie qu'elle a le droit de pas être forte tout le temps. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir aussi passer certains messages pour que ça puisse parler aux gens et de se dire bah c'est ok si je peux pas être forte tout le temps, si je peux pas y arriver tout le temps aussi. Et dans le personnage de Sophie, il y a ce truc où elle fait beaucoup d'erreurs. Mais parce que, et on va surtout le voir aussi dans le tome 2, de ce truc de la vie, c'est des choix, et oui, on va faire des erreurs, etc., mais c'est OK.
Comment est-ce que tu as créé Sophie, du coup ?
Elle me ressemble beaucoup sur certains points, même si elle va d'autant être peut-être plus joviale que moi et plus téméraire. Mais c'est vrai que j'ai puisé beaucoup en moi pour ce personnage-là. Je voulais vraiment un personnage qui ait ce côté très altruiste. Je suis pas forcément altruiste, mais... dans le sens où qui va quand même avoir beaucoup d'empathie en fait pour les gens et vouloir aider et vouloir faire la bonne chose. Donc en fait, je pense que j'ai puisé beaucoup de moi pour pouvoir créer Sophie, même si je pense qu'elle est une version upgradée de moi-même parce que elle est adorable comme personne. Mais c'est vrai que je voulais que elle puisse faire des erreurs, qu'en fait elle ait envie d'essayer tout le temps. Et que ça marche pas forcément tout le temps non plus, et c'est un petit peu, c'est ça, je pense, une transposition de ce que j'ai voulu faire aussi dans la vie, qu'on fait des erreurs, etc. Et que, en fait, je voulais pas faire un personnage qui soit trop badass ou qui sache trop ce qu'elle fait, etc. Parce que je voulais vraiment que ça représente la plupart d'entre nous aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'on m'avait dit sur les retours de l'enchant, en disant que Sophie, elle est très humaine, où elle va faire des choix, elle va faire des erreurs, elle va douter, etc. Et en fait, des fois, elle va faire des choses, elle ne sait même pas pourquoi elle les fait, mais elle va les faire parce qu'en fait, ça doit être fait. Et c'est vrai que j'avais vraiment ce besoin. Je voulais pas qu'elle soit badass. Je voulais qu'elle, en fait, elle ressemble à tout le monde et qu'elle puisse vivre des aventures comme on pourrait en vivre nous.
Alors après, il y en a des personnages badass hein, dans certains romans young adultes, mais on est d'accord. Mmh. Je trouve aussi que t'as raison, ça représente, enfin, l'idée que ça parle au plus de personnes et surtout aux lecteurs les plus jeunes. Il faut qu'on ait une certaine manière d'intégrer que le héros est faillible. Compléter parce que tu l'as pas encore dit, mais moi personnellement j'ai un peu plus que 30 ans quand même et je lis beaucoup de jeunes adultes parce que justement c'est les thématiques qui sont un peu derrière tout ça, c'est un petit peu la quête de l'identité, se rapprocher oui. de qui on est vraiment, etc. Et ça c'est quelque chose qui est universel et ce que j'aime beaucoup dans le jeune adulte.
La quête d'identité c'est vraiment le point principal du young adulte, ouais.
Ouais, et puis effectivement, ça n'empêche pas de devenir quelqu'un de badass, justement, ou autre, mais en tout cas, c'est sûr ça. Que ça rassemble un peu. Moi, j'avais quand même envie de te demander un petit peu, justement, sur ce sujet de confiance en soi. Par exemple, comment tu as évolué depuis cette fameuse trilogie, La part de l'éclair, et peut-être, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Nel qui se lance dans l'écriture ?
En fait, quand j'ai commencé l'écriture, je l'ai commencé seule. Et c'est vrai que, en fait, c'était en 2014, donc déjà les comptes d'écriture, les comptes de lecture, ça n'existait pas. Donc c'est vrai que, en fait, on est beaucoup livré à soi-même. J'avais personne dans mon entourage qui écrivait, personne qui lisait de la fantasy non plus. Donc en fait, j'ai vraiment fait à tâtons les premières années. Et quand Wattpad et quand j'ai découvert Wattpad, en fait, en 2019. C'est ça qui m'a remis à l'écriture, qui m'a débloqué d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais vraiment, j'ai jamais vraiment douté de l'écriture en tant que telle. Je savais que j'avais encore beaucoup de choses à améliorer parce que, voilà, on s'entend que au fur et à mesure des années. D'ailleurs, faut beaucoup lire pour pouvoir s'améliorer aussi en écriture. Je lisais pas assez à l'époque, mais c'est vrai que j'avais toujours cet espoir de me dire un jour je vais être publiée. Et j'ai perdu un peu cet espoir quand j'ai envoyé en fait en maison d'édition la part de l'éclair et que j'ai eu plein de refus. Mais c'est vrai que j'étais plus dans l'optique de c'est mon premier roman, c'est pas grave s'il est refusé, parce que de toute façon j'imagine que on peut pas y arriver de la première fois. Et en fait j'ai eu beaucoup de résilience. Je suis quelqu'un de très chill dans la vie, qui n'angoisse pas beaucoup. Donc, en fait, ça fait en sorte que j'ai toujours pris les choses assez à la légère. Donc, j'ai jamais eu ce côté très peu de confiance en soi, ou etc. Et toujours en me disant, j'ai le temps, au fur et à mesure des années, je vais m'améliorer. Et en fait, j'ai toujours cette volonté. Parce que la passion est là, de continuer, de persévérer, etc. Je ne sais pas si mon mindset aurait changé si l'enclenchement, ça n'avait pas marché, par exemple. Quand j'ai écrit La part de l'éclair, j'y croyais sans y croire, mais dès que j'ai écrit l'enclenchement, je me suis dit, c'est ça qui va marcher. Et j'avais une sorte de profonde foi en mon roman, plus que ce que je l'avais pour La part de l'éclair. Et c'est sûr que si je pense que j'avais été refusée à l'époque, je pense que ça m'aurait plus affecté que La part de l'éclair. Parce que je pense que je prenais mon premier roman comme une sorte d'expérience en soi et non une finalité. Et c'est vrai que le fait de pouvoir être publié, et en fait, du moins de signer un contrat, m'a apporté quand même beaucoup plus de confiance. Mais d'un côté, je trouve que ça apporte encore plus de doutes. Et je pense que j'ai jamais autant douté, à partir du moment où j'ai signé en fait le contrat, en me disant est-ce que finalement je vais envoyer les corrections éditoriales, ils vont pas trouver ça nul ? Est-ce que ils ont bien fait de me signer ? Est-ce qu'ils se sont pas trompés ? Par exemple, c'est vrai que c'est les premières pensées que j'ai eues quand j'ai signé les premières fois, en me disant ça se trouve en fait ils m'ont signé, mais je vais pas être à la hauteur de ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que ça, c'était des questionnements que j'avais pas avant de signer. Et pour le coup, c'est vrai que je pense pas que c'est une perte de confiance en moi que j'ai eue à l'époque, mais plus en fait des doutes, des angoisses. Et plus le processus avançait, et plus je me disais j'espère que ça va plaire aux gens, j'espère que... Parce qu'il y avait beaucoup d'attentes en fait à l'époque où j'ai signé mon contrat. J'ai passé les 1000 abonnés en fait sur Instagram quand j'ai signé. Et en fait, il y avait de plus en plus de gens qui avaient hâte que ça sorte. Et je me suis dit en fait, et si c'est pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent ? Parce que je le tease à mort, mais en fait, ça se trouve, il y a plein de gens qui vont se dire « Ah, tout ça pour ça !» Donc, en fait, c'est ça. Là, en fait, je pense que la signature apporte plus de doutes que n'en résout. Même avant la sortie de l'enclenchement, je pense, mes plus hauts pics de stress que j'avais jamais eu, en me disant, en fait, j'avais peur qu'on me reproche plein de trucs que j'avais écrit dans mon roman, ou qu'on déforme mes propos alors que c'était absolument pas ce que je voulais. Parce qu'en plus, on est un peu à une ère où on parle d'auteurs problématiques de plus en plus sur des choses qui vont être déformées. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur, en se disant, ça se trouve, on va dire que je suis une autrice comme ça, parce que j'ai écrit ça dans mon roman, alors que c'était pas du tout voulu. Donc il y a ces petites peurs-là, mais c'est vrai qu'une fois que c'est sorti et qu'il y a eu des super bons retours dessus, c'est vrai que ça m'a beaucoup apaisée. Mais après, c'est sûr que il y a toujours des avis mitigés, des avis négatifs, mais c'est vrai que voilà, le roman est sorti, j'en ai écrit un autre, et je pense que les doutes reviennent un petit peu là avec le troisième roman que je suis en train d'écrire, en me disant j'espère que les gens vont pas dire que L'Engrange-Temps est mieux que celui qui vient de sortir. Ah, j'ai mieux aimé L'Engrange-Temps que La Cité de Poussière.
Et à propos de suite, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être de ce tome 2 et de cet autre roman, et peut-être de tes projets d'avenir ?
Alors c'est ça, donc le tome 2 là, de L'Engrange-Temps va se passer 9 mois après le premier tome, avec une Sophie un peu plus sûre d'elle, et en fait on va avoir un côté... On avait sur le premier tome un côté très royal, très bord de mer, etc. Donc on a vraiment ce côté un peu plus Moyen-Âge, même si c'est pas le mot parce que c'est pas l'époque, mais on a vraiment plus ce concept de conte sur le premier tome. Et là, sur le deuxième tome, on change complètement d'ambiance. On est sur quelque chose de très époque victorienne, très russale, un peu Londres en fait. On est vraiment, mon inspiration première, c'est Londres victorienne. Et avec donc, un style un peu Jack l'Éventreur, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des meurtres qui vont avoir rapport en fait, avec toute cette histoire de tisseurs de temps, d'horlogerie, etc. Et bien sûr, avec un peu plus de romance. Donc on est sur un tome qui est un peu plus mature que le premier aussi, qui se comprend en fait, par rapport à l'évolution de Sophie en tant que telle, sur, par rapport à ce qu'elle a vécu dans le tome 1, sur le fait qu'elle était un peu naïve sur le tome 1 et que là, en fait, elle gagne en assurance, etc. Et ce tome-là me tient énormément à cœur. Je pense que c'est mon préféré que j'ai écrit pour l'instant. Et je le trouve très représentatif de ce qui m'anime en fait aujourd'hui. Donc je suis très très contente et j'ai très très hâte que les gens le lisent. Et Les Cités de Poussière, donc, que je suis en train de travailler là en ce moment, qui est signé d'ailleurs chez Hachette Roman. Donc en fait, je l'ai signé avant de l'écrire. Et là, pour celui-ci, il parle beaucoup plus de problématiques qui m'animent aussi aujourd'hui, dont je ne pouvais pas vraiment parler dans l'engrange-temps, notamment d'écologie, de féminisme et sur la place des femmes dans l'histoire. Ce n'est pas le vrai mot, j'allais dire, je ne parle pas de féminisme en tant que tel dans l'engrange-temps. J'ai des petits pics potentiellement sur le patriarcat à certains moments, mais c'est vrai que ce n'est pas le sujet principal. Ça reste que là, je voulais vraiment plus en parler dans Les Cités de Poussière, mais je ne veux pas non plus le marketer comme tel parce que ce n'est pas le cas non plus. Et pas mal sur l'écologie, on est sur une fantaisie dystopique. Donc sur une histoire où, et si le passé des objets pouvait être transformé en énergie et en jouvence. Donc on est sur un monde qui a été assez... comment on peut dire ça, un monde assez désertique, des terres arides où il y a juste 4 cités qui existent et autour plus rien et dont le passé en fait projette des dômes sur ces cités-là et qui leur permet de vivre parce qu'en fait l'extérieur, les rayons du soleil en fait sont mortels et en fait on a cette jeune femme qui va se retrouver au sein d'une sorte de secret de plusieurs siècles et qu'elle va découvrir qu'elle a un rôle en fait là-dedans et potentiellement sauver ces cités-là de l'effondrement. Donc c'est ça. Ça me tient quand même à cœur, même si l'engrange-temps reste mon fave. Ça reste que il y a des problématiques qui, dans Les Cités Poussières, qui me tiennent beaucoup plus à cœur et qui me ressemblent beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est un one shot.
Et ça me fait pas d'ailleurs penser sur le côté genre jeune adulte, aussi plusieurs romans jeune adulte, je pense encore une fois à Aurélie Wallenstein, mais il y en a plein d'autres, où justement le fait d'écrire en jeune adulte peut être aussi un prétexte pour aborder des thématiques beaucoup plus sérieuses et adultes, mais à notre manière, et là vraiment j'ai l'impression que c'est ça pour ce roman-là.
Ouais. En fait, je me sers de la fantaisie pour parler de sujets actuels en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que la fantaisie peut être un moyen de parler de façon plus légère, et là je mets des guillemets, de façon plus légère de certains sujets de société en fait. Parce que généralement quand on en parle dans du contemporain, c'est assez difficile je trouve de faire léger quand on parle de patriarcat ou quand on parle d'écologie, etc. Et c'est vrai que là le côté fantaisie en fait nous sort de cette idée de réalité et en fait on peut encore plus pousser le côté dystopique, côté catastrophe, etc. et faire en fait des métaphores sur notre monde actuel. Et c'est ça que je trouve super intéressant et pourquoi je fais de la fantaisie en fait en tant que telle, c'est justement pour pouvoir m'exprimer sur des sujets qui vont potentiellement être transposables sur notre monde actuel, quoi.
Ça fait un très bon mot de la fin, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Et lisez de la fantaisie, c'est super. Et de la fantaisie francophone aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur jécrisunroman.eu/hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi, je te dis à bientôt au Café des Auteurs.